de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. La Corée du Nord déconnecte le canal de communication avec la Corée du Sud. La Malaisie commence à desserrer la restriction. Les écoles ne seront pas ouvertes bientôt. L'Assemblée consultative populaire indonésienne a souligné que la communauté doit être l'avant-garde pour faire face à la COVID-19. Le centre de Sulawesi exporte les thon à nageoire jaune vers le Japon. Pertamina SA exportera de l'énergie, des carburants diesel vers ces 5 pays. Et le Vietnam passe 54 jours sans nouveaux patients de coronavirus. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. La Corée du Nord déconnecte le canal de communication avec la Corée du Sud. La Corée du Nord a déclaré mardi la coupure de toutes les lignes de communication entre la Corée et la Corée du Sud, 9 juin. La réalisation comprend les lignes directes ou les lignes téléphoniques rapides entre les dirigeants des deux pays. La Corée du Nord a déclaré que cette décision était la première d'une série d'actions. Il a également été considéré que la Corée du Nord considère la Corée du Sud comme un ennemi après avoir menacé auparavant l'émergence de tracts anti-nord-coréens envoyés à travers les frontières des deux pays. La Corée du Nord a interrompu mardi les appels quotidiens au bureau de liaison situé dans la ville frontalière de Kaesong. Les deux pays ont créé un bureau de liaison pour réduire les tensions lors des pourparlers en 2008. La Malaisie commence à desserrer la restriction. Le premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin a annoncé qu'à partir de mercredi 10 juin, le gouvernement malais avait assoupli une série de commandes de contrôle des mouvements pendant la pandémie de COVID-19. Les Malais sont autorisés à effectuer presque toutes les activités sociales, économiques et jusqu'aux activités religieuses à petite échelle, tout en respectant les distances et les autres protocoles de sécurité. Les prières dans la mosquée ont de nouveau été autorisées. Muhyiddin a également déclaré que le gouvernement prévoyait de rouvrir progressivement les écoles du mercredi au 31 août. Muhyiddin, dans un discours diffusé à l'échelle nationale récemment, a déclaré: les statistiques du ministère de la Santé montraient que le niveau de transmission du coronavirus avait diminué et était contrôlé. les écoles ne seront pas ouvertes bientôt. Le gouvernement n'a pas prévu d'ouvrir une école dans un avenir proche pour des activités d'enseignement et d'apprentissage pour les étudiants, jusqu'à ce qu'une décision de l'équipe du groupe de travail soit basée sur l'examen de la situation actuelle de la pandémie du coronavirus. Le personnel spécial du président pour la communication, Fajrul Rahman, a déclaré à Radio République Indonésia dans sa déclaration mardi 9 juin 2020 que le président avait déclaré qu'il n'avait pas encore ouvert d'école. Auparavant, le président général de l'Association indonésienne des pédiatres, Aman B. Pulungan, a déclaré que pendant la période de pandémie de COVID-19, il n'avait pas montré de développement positif, de sorte que les enfants ont d'abord appris de la maison avant d'aller à l'école. Aman estime que le potentiel de propagation du coronavirus dans les écoles a tendance à être élevé, la majorité des cas étant des enfants. L'Assemblée consultative populaire indonésienne a souligné que la communauté doit être l'avant-garde pour faire face à la COVID-19. La vice-présidente de l'Assemblée consultative populaire indonésienne, Lestari Murdiat, a affirmé qu'il était temps que la communauté soit en première ligne pour surmonter la COVID-19 en respectant les protocoles de santé dans toutes les activités menées. Comme l'a déclaré Lestari Murdiat dans sa déclaration de mardi, en commentant le premier jour de l'ouverture de bureaux et de restaurants ainsi que l'augmentation des activités communautaires à Jakarta après le début de la mise en œuvre des restrictions sociales à grande échelle de transition lundi. Selon elle, la nouvelle normalité ne signifie pas le retour à la normale comme avant, mais plutôt l'application de nouvelles habitudes qui privilégient la propreté et gardent une distance dans les espaces publics. Le centre de Sulawesi exporte le thon à nageoire jaune vers le Japon. Le ministre des Affaires maritimes et des pêches, Edi Prabowo, a inauguré la première exportation des thon à nageoire jaune du centre de Sulawesi vers le Japon. La première exportation par la voie aérienne a indiqué que les thon à nageoire jaune devenaient le nouveau produit d'exportation de Sulawesi central dans le secteur maritime et halieutique. Edi Prabowo a déclaré mardi à Palu, bien que cela soit hanté par la pandémie de COVID-19, il n'a pas réduit la demande de produits de la pêche indonésienne, y compris ceux de Sulawesi central. Il espère que l'exportation serait durable, pas seulement cérémonielle, et que toutes les parties pourraient accroître les exportations des thon à nageoire jaune de Sulawesi central et pas seulement vers le Japon. Eddy a également mentionné les efforts du ministère des Affaires maritimes et de la pêche pour encourager les efforts de pêche en réduisant la longueur de bureaucratie d'octroi de licences et en invitant également le secteur privé à collaborer. Pertamina SA exportera de l'énergie de carburant diesel vers ces 5 pays. Pertamina SA prévoit d'exporter du carburant diesel vers 5 pays d'Asie-Pacifique. Cela est fait par l'entreprise parce que l'entreprise peut produire du diesel indépendamment. Le directeur de méga projet et pétrochimique de Pertamina SA, Ignatius Talulembang, à Jakarta mardi 9 juin, a expliqué que plusieurs projets actuellement menés par Pertamina SA pourraient augmenter la capacité de production de l'entreprise. Par conséquent, non seulement pour répondre aux besoins domestiques, mais l'entreprise peut également répondre aux besoins du carburant diesel d'autres pays. Il a expliqué qu'il existe des possibilités d'exporter du carburant diesel vers le marché de l'Asie-Pacifique, en particulier vers les 5 pays ciblés comme le Vietnam, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Vietnam passe 54 jours sans nouveau patient de coronavirus. Le gouvernement vietnamien a signalé 54 jours sans trouver de nouveaux cas de coronavirus du pays mardi le 9 juin, selon l'agence de presse vietnamienne, sur 322 cas de coronavirus au Vietnam. 192 provenaient de citoyens partis à l'étranger. Ils ont été mis en quarantaine après leur débarquement au Vietnam. Ensuite, sur 322 patients du coronavirus, 316 d'entre eux s'étaient rétablis. Le gouvernement vietnamien affirme qu'aucun de ses citoyens n'est décédé à cause du coronavirus. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La rupture des communications entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a entravé leurs efforts de réconciliation. » Il n'a pas fini de lutter contre la pandémie du virus corona, la Corée du Sud est confrontée à de nouvelles menaces de son plus proche voisin, la Corée du Nord. Le gouvernement nord-coréen a dit de couper les relations de communication avec la Corée du Sud. L'agence de presse officielle du Nord-Coréen, KCNA, a rapporté que la décision du gouvernement était tenue aujourd'hui, mardi 10 juin, heure locale. Selon KCNA, la décision du gouvernement à Pyongyang a pris la forme de mettre fin à tous les canaux de communication avec la Corée du Sud, et surtout de couper les lignes téléphoniques directes ou des lignes directes entre les dirigeants des deux pays. La rupture de communication peut être facilement effectuée parce que chaque appel entrant en provenance de Corée du Sud doit passer par un bureau de liaison dans la ville de Kaesŏn, à la frontière nord-coréenne. Le bureau de liaison de la communication à Kaesŏn a été créé par des accords des deux pays en 2018 à la suite d'une conférence de haut niveau des deux pays dans le but de réduire les tensions dans les relations. Depuis lors, les deux gouvernements ont pu communiquer deux fois par jour. Comme l'a affirmé le gouvernement de Pyongyang, la rupture de communication était la première d'une série de mesures à prendre contre la Corée du Sud. Le gouvernement nord-coréen, dans ce boycott de communication, appelle le pays voisin, qui est également coréen, comme un ennemi. La décision de couper la communication a été prise par la Corée du Nord parce qu'elle était bouleversée à cause des ballons à air volant de Corée du Sud et destinés au peuple de Corée du Nord. Ils étaient accompagnés de quelques messages écrits, peut-être considérés comme de la propagande et parfois aussi de la nourriture. Le but serait de tenter le peuple nord-coréen de lire le message ou de prendre la nourriture. Il est possible que des nord-coréens lisent le message en secret pour satisfaire leur curiosité face aux nouvelles du monde extérieur ou connaissent la situation de leurs proches en Corée du Sud. Le gouvernement communiste nord-coréen interdit à son peuple de contacter le monde extérieur et d'entendre, de voir ou de connaître des informations venant de l'étranger. Pour le peuple de Corée du Nord, la décision du gouvernement de rompre les relations de communication avec la Corée du Sud n'est pas très importante parce qu'il est très probable qu'il n'ait pas entendu la nouvelle, parce qu'ils n'ont pas pu communiquer avec le monde extérieur. Cependant, les mesures du souverain nord-coréen, en plus de montrer son pouvoir, peuvent affecter les relations qui ont commencé à exister avec la Corée du Sud. Cela aura un impact sur les efforts de réconciliation entre les deux pays, qui sont séparés en raison de la guerre de Corée et des différences d'idéologie politique. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 juin 1942, des soldats allemands ont tué des habitants de Lidice en représailles du meurtre du lieutenant de nazi Reinhard Heydrich. Lorsqu'il a entendu dire que Reinhard Heydrich, l'un des membres de nazis les plus violents, avait été tué, Adolf Hitler était furieux et immédiatement ordonné une enquête approfondie. Le service de renseignement relie les tueurs à un village appelé Lidice situé à 22 km au nord-ouest de Prague. Pour donner une leçon afin qu'un événement similaire ne se répète pas, Hitler a ordonné l'exécution de résidents masculins adultes et les femmes déportées dans des camps de concentration. Les enfants aux cheveux blonds et aux yeux bleus sont séparés de leur famille et adoptés par des familles allemandes. Des maisons ont été brûlées et les débris nivellés. Le 10 juin 1947, l'accord d'amitié entre la République d'Indonésie et l'Égypte a été signé au Caire. Le président indonésien Sukarno a envoyé une mission diplomatique en Égypte en représailles de l'arrivée du consul général d'Égypte à Bombay, Abdul Munim, qui s'était rendu à Yogyakarta quelques mois auparavant. Une mission diplomatique dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Haji Agus Salim, est chargé de mobiliser un soutien de faveur de l'indépendance de l'Indonésie au monde international et de signer un accord d'amitié entre l'Égypte et l'Indonésie. L'accord d'amitié, la politique et le commerce entre les deux pays a été signé par le ministère des Affaires étrangères égyptien. Le parti égyptien était représenté par le premier ministre Nokrashi Pacha, qui est également ministre égyptien des Affaires étrangères, et la partie indonésienne par Agus Salim. Avec la signature de l'accord d'amitié, il renforce encore la souveraineté de l'Indonésie en tant que l'État indépendant. L'Égypte est le seul pays à reconnaître la souveraineté de l'Indonésie de facto et de jure à cette époque. Cet accord constitue la première victoire de la diplomatie indonésienne à l'étranger et l'incapacité des Pays-Bas d'empêcher la reconnaissance de la souveraineté indonésienne à l'étranger. Le 10 juin 2009, l'inauguration du pont Suramadu entre l'île de Madura et l'île de Java. Le pont national Suramadu est un pont qui traverse le détroit de Madura et relie Java et l'île Madura. D'une longueur de 5438 mètres, ce pont est aujourd'hui le plus long pont de l'Indonésie. Se compose de trois parties, à savoir le pont aérien, le pont de connexion et le pont principal. Le pont a été officiellement ouvert par le président Megawati Soekarnoputri le 20 août 2003 et le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 juin 2009. La construction du pont est destinée à accélérer le développement de l'île de Madura, couvrant l'infrastructure et l'économie qui étaient retardées d'autres régions à Java-Est. Comme elle relie les deux îles, la technologie utilisée pour la construction du pont Suramadu est conçue pour permettre aux navires de passer sous le pont. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta.
C'est la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, la nouvelle normalité, le programme de péage maritime utilise des systèmes de communication logistique. La Direction générale du transport maritime du ministère des Transports a veillé à ce que les programmes de livraison de logistique par le biais du programme de péage maritime se poursuivent pendant la période de la nouvelle normalité. L'une des stratégies consiste à utiliser un système de communication logistique ou LCS, comme l'a déclaré le directeur du trafic et du transport maritime de la Direction générale du transport maritime du ministère des Transports, le capitaine Wisnu Handoko, dans sa déclaration à Jakarta dimanche. Selon Wisnu Handoko, LCS développé par Telkom continuera d'être mis à jour afin qu'à l'avenir, il puisse aider et faciliter l'accès du public à diverses informations telles que les horaires des navires, la position de suivi des navires, la disponibilité des conteneurs, les commandes d'expédition, les manifestes et les frais d'expédition, les données statistiques sur les expéditions de fret au départ et au retour, jusqu'au prix de vente des produits de base et importants. De plus, les données sur le fret avec LTS seront resserrées afin d'éliminer les écarts dans les procédures de mise en œuvre du programme du PS maritime. Il expliquait, c'est pourquoi les règles d'expédition des marchandises seraient resserrées en s'inscrivant conformément à la carte d'identité et au numéro d'identification fiscale. En outre, Vishnu Handoka expliquait que dans ses informations sur le fret et l'espace des navires, sa partie facilitera le processus d'affaires de commande, d'expédition des conteneurs, la transparence dans la normalisation des coûts logistiques et la disparité des prix des produits de base est importante. L'objectif est, en plus de minimiser les contacts physiques, de stimuler une concurrence saine, car les entreprises se surveilleront mutuellement les prix appliqués les uns aux autres. Les entreprises doivent télécharger leurs frais de service respectifs. Le ministère des Transports espère que le péage maritime logistique dans la nouvelle normalité peut être utilisé par les acteurs du commerce des produits de base et importants entre les îles pour augmenter plus le volume des marchandises d'expédition pour répondre aux besoins régionaux. Selon lui, le ministère des Transports apprécie hautement plusieurs chefs régionaux qui ont prouvé leur engagement à renvoyer la rétrofacturation de la production régionale par le biais de PS maritimes. La majorité de la salle contient du poisson, du bois, du copra et autres. En outre, il a expliqué que l'Agence des affaires logistiques et le ministère du Commerce avaient assuré qu'ils expédieraient du riz, du sucre, de l'huile de cuisson, de la farine et autres vers diverses régions en utilisant des navires à péage maritime. Pendant la pandémie de COVID-19, les cargos et les navires spéciaux de transport maritime étaient toujours autorisés à opérer en appliquant les dispositions du protocole sanitaire pour la manipulation de COVID-19 et les critères de restriction de voyage pour les personnes dont la mise en œuvre était plus étroitement surveillée. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Kita remaja yang sedang di mabuk asmara mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang merdu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa. Ku serahkan dan kau terima. Kita
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition aujourd'hui, je vais vous inviter à présenter le charme de Pari Van Java. Pari Van Java est un surnom de la capitale de Java occidentale. Cette ville devient le lieu favori des gens pour leurs vacances. Cette ville note également diverses histoires importantes, notamment la création du premier collège technologique indonésien, à savoir l'Institut de technologie de Bandung ou ITB, le lieu de la guerre de l'indépendance et le lieu de la conférence afro-asiatique 1955. Où cette conférence sonnait de l'esprit anticolonialisme. Même dans son discours, Jawaharlal Nehru, premier ministre indien, a déclaré que Bandung était la capitale de l'Asie et de l'Afrique. Bandung est également bien connu dans la ville qui est pleine de la mémoire historique de la lutte des Indonésiens en général. Certains monuments ont été construits pour commémorer les événements, notamment le monument de lutte de Java occidentale, le monument de Bandung Lautan Api, le monument de la prison de Banjoi, le monument du train et le cimetière de Ero Cikutra. La ville des fleurs est un autre surnom de cette ville, car jadis, cette ville était belle avec ses arbres et ses fleurs. Bandung est également une ville commerçante avec un centre commercial et des magasins d'usines répartis dans Bandung. Récemment, cette ville est également devenue une ville de tourisme culinaire. En 2007, un consortium d'organisations internationales non gouvernementales a fait de Bandung un projet pilote de la ville la plus créative de l'Asie de l'Est. Bandung devient maintenant l'une des principales destinations touristiques et de l'éducation. La ville de Bandung est également connue pour un certain nombre de bâtiments à l'architecture du patrimoine néerlandais, tels que Gedung Sate, qui fait office du bureau du gouvernement de la province de Java occidentale, Gedung Pakuan ou le bâtiment de Pakuan, qui devient la résidence officielle du gouverneur de Java occidentale, et bien d'autres. Bandung a également quelques salles publiques pour l'art tel que le musée, le théâtre et la galerie. Il y a aussi le bâtiment de Merdeka où a eu lieu la conférence afro-asiatique 1955 et le bâtiment Indonesia Menggugat qui est devenu dans le passé. Le président indonésien Sukarno a transmis ses phénoménales revendications de plaidoir à l'époque coloniale néerlandaise. Thank you. Bandung possède des zones qui deviennent des parcs de la ville, en plus de fonctionner comme des poumons de la ville et de devenir des lieux de loisirs pour la communauté de la ville. Il existe également des plats typiques qui sont bien connus dans le monde à Bandung, mais aussi en dehors de la ville, tels que tutuk oncom, serabi, pepes, colenak et cireng. Si vous allez à Bandung, nous vous suggérons de goûter peyem, une sorte de tapé. Le tapé est fabriqué à base de manioc fermenté. On le trouve dans la majeure partie de l'Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l'Asie de l'Est, notamment dans les cultures austronésiennes. On peut accéder à Bandung en utilisant le transport terrestre tel que le train ou bien le bus en 3 à 4 heures. Aujourd'hui, le gouvernement indonésien construit actuellement un autre moyen de transport public, à savoir le LRT ou Light Rapid Transit, qui permettra de réduire la durée du trajet Jakarta-Bandung en seulement 45 minutes. Chers amis, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui et en pour titre Le charme de Paris van Java. Merci à tous et à bientôt.
Ini gundah kau. saatnya menjadi cerah. Kau lah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara, tempat hatiku bermuara.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir à tous. Le sujet d'aujourd'hui est: sudah berapa lama kalian menikah? Je répète. Sudah berapa lama kalian menikah? En français, combien de temps avez-vous été marié? Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Sudah berapa lama kalian menikah? Ou en français, combien de temps avez-vous été marié? Dans le salon de la maison de Joko, Tony et Dinda sont en train de regarder les photos de mariage de Joko et Dinda.
Anda, kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, Kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Sudah berapa lama kalian menikah? Ou en français, combien de temps avez-vous été marié? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? En français, tu as quel âge quand tu te maries? Aku 21 dan Mas Joko 25. Aku 21 dan Mas Joko 25. En français, j'avais 21 ans et Joko avait 25 ans. Pacar. Pacar. En français, petit ami. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. En français, je pas de petit ami. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. En français, alors, je ne sais pas encore quand je vais marier. Dans le dialogue, vous avez écouté berapa umur kalian waktu menikah? Je répète, berapa umur kalian waktu menikah? Le mot waktu, on peut le changer avec le mot ketika. Alors, berapa umur kalian ketika menikah? Les mots waktu et ketika dans la phrase sont utilisés pour marquer le même temps qui signifie quand. Par exemple, saya menikah ketika berumur 21 tahun. En français, je suis marié quand j'avais 21 ans. Dia pergi ketika hujan. Il part quand il pleut. Joko menelpon waktu saya sedang tidur. Joko m'a téléphoné quand je dormais. Waktu kecil, apa cita-cita kamu? En français, quand tu étais petit, quels étaient tes rêves? Le mot waktu, on l'utilise généralement dans la conversation quotidienne. Tandis que le mot ketika, on l'utilise généralement dans la situation formelle ou dans l'écriture. Ensuite, pour répondre à la question de Tony, Dinda dit aku 21 dan Mas Joko 25. Dans la conversation indonésienne, le mot puluh dans le chiffre dizaine, on le supprime suivant. Par exemple, 25 à 25, c'est-à-dire 25. 82 à 82, c'est-à-dire 82. Avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Indah, kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, Kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. On se retrouvera avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.
Thank you. Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Oh Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi. Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Of Indonesia.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat sehangat cintamu. Kasihku Rosan.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19 sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter la chanson de Manado, Sulawesi du Nord, intitulée Siapa Suruh Datang Jakarta, chantée par Melky Guslau. Chers auditeurs, cette chanson raconte l'histoire d'une personne qui a émigré à Jakarta. De façon inattendue, la migration vers Jakarta n'a fait que rendre la vie misérable et personne ne se souciait les uns des autres. Mieux vaut vivre dans le village que de se contenter d'une cabane dans la capitale. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Siapa Suruh Datang Jakarta par Melky Guslau. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.